Bon, alors c'est reparti pour les conférences de presse. Monsieur Trudeau à midi, il y a une conférence de presse à 13h de Monsieur Roberge, Madame Mécan, ministre Charest.
Oui.
En fin d'après-midi, le premier ministre sur l'application. Et entre-temps, Monsieur Legault, lui, va rencontrer 13h les chefs Atikamekw, la rencontre dont tu nous parlais vendredi, qui n'a pas eu lieu, puis finalement, ben, c'est aujourd'hui.
Exact. Puis, ce dont je veux te parler, Paul, ce matin, c'est que on regarde évidemment ce qui se passe avec les Atikamekw après la mort de Joyce Echaquan, mais je vais te parler d'un autre coin du Québec où la tension monte entre les Autochtones et les non-Autochtones. Je te raconte, vendredi, je reçois un appel d'un pourvoyeur qui me raconte que des Algonquins, Anishinaabe, donc, ont installé des barrages qui empêchent les chasseurs d'orignaux d'entrer sur le territoire de la pourvoirie où ils ont... tu sais, la manière dont ça fonctionne, un pourvoyeur a autorité sur un territoire et il peut vendre des forfaits, par exemple, aux chasseurs qui viennent s'installer dans ces chalets, puis ils ont le droit de chasser, ils ont le droit éventuellement de tuer un orignal, donc ils ont le permis et tout le reste. Et là... Ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions entre les chasseurs non autochtones, armés évidemment, et les Algonquins Abishinabé, donc, qui sont eux aussi armés dans certains cas.
Et là, tu me parles du parc de la Vérendrye, là.
Je te parle du parc de la Vérendrye, mais je te parle aussi de Lac Barrière. Je te parle aussi de tensions dans le coin de Mont-Laurier. Je te parle aussi de tensions dans le coin de Maniwaki. Parce que là, j'ai fait des appels après ça, puis je me suis dit, voyons. On n'a pas entendu parler de ça. Puis là, tu fais une recherche, puis tu t'aperçois que oui, les médias en Abitibi, en Outaouais, un peu, en ont parlé. Et là, je me mets à faire des appels. Et Paul, je te le dis, la situation est très, très explosive présentement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a eu au moins, une vingtaine d'incidents qui ont été rapportés à la Sûreté du Québec, qui impliquent donc des chasseurs non autochtones et des membres des communautés algonquines Anishinaabe. Quand je te parle d'incidents, là, je te parle de chasseurs qui veulent donc entrer dans le territoire, par exemple, de la pourvoirie ou entrer dans la réserve faunique du parc de la Vérendrye et qui se font arrêter à des barrages, qui se font, dans certains cas, intimider, menacer. C'est la nature des plaintes qui ont été portées à l'attention de la Sûreté du Québec, qui se font dire « Retourne de bord, t'es pas chez vous, t'es chez nous étant le territoire algonquin. » Et là... Paul, j'ai essayé de comprendre, parce que la raison pour laquelle je vous parle de ça, vous l'aurez compris, c'est parce que ce qui s'est passé à Joliette, dans le fond, ça fait monter la tension partout où il y a des enjeux entre autochtones et non-autochtones. Dans le cas des Anishinaabe, donc des Algonquins, ce qu'ils disent, c'est que le cheptel d'orignal a beaucoup baissé dans la réserve faunique de la Vérendrye au cours des dernières années. Et là, ils blâment les chasseurs non autochtones, les chasseurs blancs, si tu veux, pour cette baisse du cheptel, même si les statistiques officielles semblent démontrer que la chasse sportive serait responsable de moins de 5 % des orignaux qui ont été tués. Mais là, t'as des chasseurs, Paul, qui ont payé pour leur permis, qui ont payé pour avoir le droit d'accéder au territoire de chasse, qui, dans certains cas, ont payé pour un séjour dans une pourvoirie et qui ne peuvent pas y aller parce que ils font face donc à des barrages. Dans certains cas, il y a des excavatrices qui ont été amenées dans le bois, dans la forêt, pour creuser des trous dans les chemins forestiers, ce qui empêche les chasseurs de passer. Puis je te le dis, là...
Tu me corrigeras, mais je pense qu'on laisse passer les autres. C'est-à-dire que si tu es un chasseur, tu passes pas, mais si tu te promènes, tu passes pareil.
Ah, ça se peut.
Oui, ils vérifient si la personne a des armes dans l'auto, c'est quelqu'un qui s'en va chasser. Là.
D'accord. Et moi, ce que je te dis, là, Paul, là, c'est qu'il y a eu des incidents, là. Je te le dis, là, ça aurait pu dégénérer. C'est passé proche à plusieurs reprises. Et on n'entend pas parler, puis moi, je vous en parle à matin parce qu'il ne faut pas attendre que ça pète avant de s'en occuper. Et là, le ministre de la Faune, Pierre Dufour, s'en est occupé au cours des dernières semaines. Il a proposé un compromis qui n'a pas encore été accepté par le leadership algonquin Anishinaabe de diminuer de 50 % le nombre de chasseurs dans la réserve de la Vérendrye l'an prochain. Il y a 2 ans, il y avait 250 groupes de chasseurs. Ça, c'est en 2019. Il propose qu'il n'y en ait plus que 125 l'an prochain. La proposition n'a pas encore été acceptée par la communauté algonquine. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, la dernière proposition qui est sur la table, c'est de nommer un négociateur. Moi, ce qu'on me dit à Québec, c'est que Dufour, le ministre de la Fonde, Pierre Dufour, serait d'accord pour nommer un négociateur. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'au cabinet de François Legault, il serait d'accord aussi pour nommer un négociateur. Et là, ils attendent après la ministre Sylvie Damour, la ministre des Affaires autochtones, pour aller de l'avant avec la nomination. Mais ça traîne. Puis je suis pas capable de comprendre trop pourquoi ça traîne. Moi, ce qu'on me dit, c'est que la sous-ministre au secrétariat des Affaires autochtones, Marie-Josée Thomas, emmène large. Dans certains cas, il y en a qui me disent même, garde, la vraie ministre, c'est la sous-ministre. C'est pas la ministre d'amour, c'est la sous-ministre Marie-Josée Thomas qui a une bonne communication avec les communautés autochtones. En tout cas, tout ça pour te dire, Paul, qu'il faut garder un œil là-dessus parce que avec la COVID puis avec ce qui s'est passé à Joliette, on a peut-être un petit peu perdu de vue ce qui se passait ailleurs là, mais il y a dans notre angle mort là quelque chose qui ressemble à une poudrière, ouais. Paul, je te le dis là, c'est la suite des anecdotes que j'ai pu recueillir m'amène à conclure que c'est sérieux et puis il faut vraiment garder un œil là-dessus.
Parle-moi donc de la votation qui commence au Parti québécois, le résultat qui va être connu vendredi soir.
Exactement. Alors évidemment lundi prochain, on fera l'analyse de ce que le nouveau chef a proposé pendant cette course, puis on verra là
qui est le chef d'abord.
Mais c'est ça, puis qu'est-ce que ça prépare pour la suite.
Oui.
Mais là, je veux juste vous rappeler, il y a 34 600 membres qui vont pouvoir voter, puis un autre 1200 sympathisants. Mais grosso modo, t'as à peu près 35 000 personnes qui vont choisir le nouveau chef. Il y a 4 ans, lorsque Jean-François Lisée a été élu chef, le PQ comptait 73 000 membres, Paul. En 4 ans, le Parti québécois a perdu la moitié de ses membres. Et évidemment, ils ont perdu, c'est pas juste de la désaffection, c'est aussi que le membership du Parti québécois est très, très, très vieillissant. Et donc, ça aussi, évidemment, ça contribue à la chute. Les péquistes vont te répondre, ça reste le parti qui a le plus de membres, c'est vrai, mais la chute est brutale. Alors, résultat connu donc vendredi, je vous rappelle, c'est un vote au scrutin préférentiel. C'est-à-dire que tu votes pour ton premier choix, tu votes pour ton deuxième choix, tu votes pour ton troisième choix. Et je vais te dire, Paul, ce qui s'annonce, c'est un résultat qui va prendre au moins 2, sinon 3 tours. La plupart des gens qui je parle me disent « Sylvain Gaudreau devrait partir avec l'avance ». Tu sais, il incarne la stabilité, la continuité. Il a été ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, député depuis 2007. Je veux dire… c'est l'institution, Sylvain Gaudreau, c'est le sérieux, c'est la rigueur. Mais il y en a qui me disent, si il part pas avec une grosse avance dès le premier tour, ça pourrait se compliquer par la suite. L'autre candidat qu'il faut surveiller, évidemment, Guy Nantel, l'humoriste, indépendantiste convaincu, qui mise sur sa popularité puis sur sa notoriété pour relancer le PQ. À surveiller Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il s'y prend pour une deuxième fois. Il incarne la jeunesse, il incarne le renouveau. Il a effectué un virage nationaliste au cours de cette course-là à surveiller. Et puis Frédéric Bastien, qui a multiplié les coups d'éclat pendant cette course. Encore un matin, il va annoncer là, qu'il dépose une requête en Cour supérieure pour faire invalider la loi sur les mesures de guerre. Donc, on va voir pendant toute la semaine, donc les péquistes vont pouvoir voter pour décider qui sera leur prochain chef. Par ailleurs, je veux te dire, ils ont été frappés hier, le Parti québécois a été frappé par un drame. Je pense que c'est pas exagéré de le dire. Celui qui était le coordonnateur de la course, Stéphane Jolicoeur, 50 ans, est décédé, Paul, et il est décédé selon toute probabilité des suites de la COVID.
Ah ouais?
Ouais. Moi, je le connais bien, Stéphane Jolicoeur, je l'ai bien connu, parce qu'il était mon attaché dans mon bureau de comté. Pendant nombre d'années. Je lui ai parlé la semaine passée. Il était à l'hôpital Charles-Lemoyne. Il avait reçu un test positif à la COVID et un deuxième test qui était négatif. Il attendait le troisième. Finalement, il s'est avéré négatif. Sauf que il y avait des difficultés respiratoires. Les médecins n'arrivaient pas à déterminer pourquoi il avait des difficultés respiratoires. Ils l'ont gardé sous observation. Finalement, il est rentré chez lui vendredi et il est décédé dans les heures qui ont suivi. Moi, je veux juste d'abord transmettre mes condoléances à la famille, à ses parents, à sa sœur et aux membres de la famille du Parti québécois qui ont travaillé avec Stéphane. Mais je veux juste te dire, Paul, tout parti confondu, on a besoin de personnes comme Stéphane Jolicoeur. La raison pour laquelle les députés, les ministres sont capables de bien faire leur travail, c'est qu'ils ont des gens dans leur entourage, dans l'ombre, qui font un travail exceptionnel. Et Jolicoeur était un homme exceptionnel, un organisateur, un gars qui avait le Québec tatoué sur le cœur, qui se levait très tôt le matin, qui travaillait très, très tard le soir. C'est vraiment un très bel exemple d'un militant qui s'est dévoué pour la cause, qui le faisait par amour pour le Québec, qui ne faisait pas par intérêt personnel. Et donc, c'est une perdre un homme comme ça, là, à 50 ans, là, Paul, là, à 50 ans, là, tu te rends compte? C'est vraiment une très, très lourde perte et j'en suis très, très attristé. Voilà.
Merci, Bernard. Bonne journée.
Bonne journée.
7h13. La 20, monsieur.